Alors, qu'aurait pu faire François Hollande? Parce que quand on dit ça, on dit oui, mais de toute façon, on ne pouvait rien faire d'autre, vu les rapports de force en Europe, l'Allemagne, etc. Si on avait fait autrement, on aurait fait éclater la zone euro, etc. etc. Là, il y a un débat, effectivement, qui est un débat de stratégie. Et qui est un débat très important. Parce que, est-ce qu'on est condamné ou pas à, année après année, accepter les rapports de force dominants en Europe et à s'aligner sur les rapports de force dominants en Europe? Ça, c'est une question très importante. Alors, il peut y avoir deux types de réponses à ça. Qui me semblent les deux fausses. Il y a une première réponse qui dit on peut pas accepter ça, donc il faut sortir de l'euro. Et en sortant de l'euro, on récupère, hein, on fait une dévaluation compétitive et on récupère une souveraineté monétaire et donc on récupère une indépendance et une capacité d'action. Bon. Je pense que c'est une solution illusoire. Bon. C'est une solution illusoire. Pourquoi? Parce que je veux dire, sortir de l'euro aujourd'hui aurait un certain nombre de conséquences qui sont des conséquences très négatives. La première conséquence négative, serait qu'en sortant de l'euro, si on sort de l'euro, ça veut dire que c'est pour, ce que disent tous les économistes qui prônent la sortie de l'euro, c'est pour faire une dévaluation compétitive, pour retrouver des marges de manœuvre monétaires et pour pouvoir booster les exportations. Et ça signifie effectivement que la concurrence entre les États européens s'aggravera. C'est-à-dire qu'au lieu de promouvoir plus de coopération, bon, ce qu'on promeut avec cette solution-là, c'est encore plus de concurrence et d'affrontement entre les États européens. C'est-à-dire que la dévaluation compétitive, c'est une mesure qui, pour booster les exportations, pour essayer de gagner des parts de marché contre les autres pays européens, c'est par définition une solution non coopérative. Donc c'est une solution qui aura des conséquences très négatives du point de vue de la solidarité entre les peuples européens. Parce qu'elle aura pour conséquence de promouvoir les affrontements, enfin en tout cas d'aggraver les affrontements entre les États. Donc et dans une situation où on voit qu'il y a des montées de nationalisme, hein, de xénophobie, etc., on voit bien les conséquences que cela peut avoir. Économiquement, elle n'empêchera absolument pas l'austérité. Hein, parce que, comme le montrent toutes les expériences historiques, chaque fois qu'il y a eu des dévaluations compétitives, il y a eu derrière des politiques d'austérité. Pourquoi? Parce que les autres États prennent des mesures de rétorsion et que comme il faut défendre nos exportations, je mets des guillemets à nos exportations, contre les autres, eh bien, il faut que les salariés se serrent la ceinture pour défendre nos exportations. Bon. Sans compter le fait qu'il y aura probablement des spéculations contre la monnaie nationale. Bon, et le fait que les importations seront renchéries, hein, de façon très importante, bon, puisqu'il y aura une dévaluation. Donc tout ça, pour des raisons à la fois économiques et politiques, la sortie de l'euro est une mauvaise solution. Bon. Deuxième solution, c'est le statu quo, c'est-à-dire ce que défend de fait François Hollande, c'est-à-dire on s'adapte au rapport de force actuel et voilà, comme les rapports de force actuels, c'est les gouvernements de droite, que c'est l'Allemagne. Enfin, la droite allemande, il ne faut pas dire l'Allemagne, parce qu'il y a un débat en Allemagne sur tout ça, et les Allemands sont très divisés, les économistes allemands sont très divisés, les syndicats allemands ont pris position contre, hein, le pacte de stabilité, comme d'ailleurs la Confédération européenne des syndicats. Bon, donc donc on s'adapte, bon, et on accepte la domination de la droite allemande sur ce sujet. Bon. Donc ça, c'est une solution qui mène aux conséquences que j'ai expliquées il y a quelques secondes. Il y a une troisième solution qui n'a pas de garantie de succès, hein, bon, qui est une sorte de stratégie, je dirais, sur le fil du rasoir, mais qui est, de mon point de vue, la seule stratégie possible pour un gouvernement de gauche, un gouvernement progressiste. Que devrait-il faire? Il devrait d'abord dire, voilà, nous refusons, d'appliquer des politiques d'austérité qui paupérisent la population, qui entraîne la destruction du modèle social européen. Nous sommes pour la construction européenne. L'euro est notre monnaie commune, mais l'euro est aujourd'hui dominée par les marchés financiers. L'euro est mis au service d'une politique néolibérale que nous refusons d'appliquer. Donc nous ne l'appliquons pas. Nous refusons d'appliquer le pacte budgétaire. Nous disons que la Banque de France, bon, nous réquisitionnons la Banque de France pour que la Banque de France puisse faire de la création monétaire afin de financer les déficits publics et de sortir la dette publique des mains des marchés financiers. Techniquement, c'est tout à fait possible. Hein, la Banque de France peut faire de la création monétaire, créer des euros et financer les déficits publics. Aujourd'hui, il y a un système européen des banques centrales. Bon, c'est la BCE qui pilote les banques centrales nationales. Et les banques centrales nationales sont indépendantes du pouvoir politique. Un pouvoir politique de gauche peut décider de rompre avec les règles européennes, de ne pas appliquer les traités, de dire nous ne sortons pas de l'euro, et nous décidons de mettre fin à l'indépendance de la Banque de France et de faire en sorte que la Banque de France, nous ordonnons à la Banque de France, comme la Banque de France le faisait il y a encore quelques années, de faire de la création monétaire et de financer les déficits publics. Ça, c'est techniquement tout à fait possible. Par exemple, c'est la Banque de France aujourd'hui qui refinance les banques. Les banques françaises, vous savez que, entre guillemets, on a dit que la BCE avait prêté 1 000 milliards d'euros aux banques européennes. Et ça passe par les banques centrales nationales. Ce n'est pas la BCE qui prête. C'est des jeux d'écriture qui sont faits par les banques centrales nationales. Donc ça, c'est techniquement possible. Bon. Et on peut même faire quelque chose qui ne violerait même pas les traités, hein, puisque l'article 123 du traité de Lisbonne interdit le financement direct des États par la Banque centrale européenne, mais permet que les établissements publics de crédit soient refinancés par la Banque centrale européenne. Donc on peut, par exemple, en France, imaginer que la Caisse des dépôts, qui est une banque publique de crédit, emprunte, se refinance, plus exactement, c'est ça le terme, auprès de la Banque de France, auprès de la BCE à travers la Banque de France, et prête à un taux extrêmement faible, ou quasiment nul, au gouvernement et à l'État. Ça, c'est tout à fait possible, sans même violer formellement les traités. Évidemment, ça les violerait dans l'esprit, hein, parce que c'est au-delà de la lettre, c'est quelque chose qui viole, je veux dire, l'esprit des traités, qui interdit effectivement le financement des États par les banques centrales. Il faut savoir que la zone euro est un des rares pays, hein, où il y a cette situation. Hein. Si on prend, par exemple, la Banque d'Angleterre ou la Banque des États-Unis, la Fédérale Réserve ou le Japon, les banques centrales financent les déficits publics. Hein, bon. Donc, la zone euro est la seule zone économique de cette importance dans laquelle, je veux dire, les déficits publics et la dette publique sont entièrement dans les mains des marchés financiers. Hein. C'est un cas d'exception dans le monde. Tous les grands pays, je veux dire, ne se financent pas de cette façon-là. Par exemple, la dette publique du Japon aujourd'hui doit être à 220% du PIB. Il n'y a aucune spéculation sur la dette publique du Japon. Pour une raison extrêmement simple, c'est que cette dette publique, les bons du trésor japonais sont achetés par les institutions publiques japonaises qui les replacent auprès des épargnants japonais. Et donc, c'est une dette qui est hors des marchés financiers. Donc, en Europe, on a une dette publique qui est dans les mains des marchés financiers. Et où on voit une situation absolument abracadabrante, voit la BCE à travers les banques centrales nationales prêter aux banques privées à des taux dérisoires, aujourd'hui c'est 0,75%, et les banques privées reprêtent aux États, des fois, jusqu'à 7, 8, et la Grèce a encore monté beaucoup plus haut. Aujourd'hui, l'Espagne en prête à plus de 6%. Donc c'est totalement aberrant. Donc il faut rompre avec cette situation-là, et on peut rompre soit de façon directe, un gouvernement pourrait rompre soit de façon directe en forçant la Banque de France à prêter directement, soit de façon contournée, mais ça revient strictement au même, en passant par la Caisse des dépôts et consignations qui pourrait prêter à l'État à des taux qui soient nuls, soit très faibles.